Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le chanteur syrien Saba Fakhri est mort. Il était une icône de la chanson à l'épine et célèbre dans tout le monde arabe. Nous reviendrons sur son parcours avec le journaliste, président d'honneur de l'Association de la presse étrangère, président fondateur de Trilogue News, Elie Masbounji. Un attentat suicide a fait au moins 19 morts et 50 blessés aujourd'hui en Afghanistan. C'est arrivé près d'un hôpital militaire dans le centre de Kaboul. Le Liban appelle l'Arabie Saoudite au dialogue pour régler la crise diplomatique entre les deux pays. Une crise née des propos du ministre libanais de l'Information qui avait critiqué l'intervention militaire de Riyad au Yémen. Cela fait 104 ans, le 2 novembre 1917, la déclaration Balfour, Arthur Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, a porté le soutien du gouvernement à l'établissement d'un foyer juif en Palestine. Changer le regard porté sur les personnes qui souffrent de troubles mentaux en France, le souhait du député et psychiatre Brahim Hamouche, il sera l'un de nos invités. Un contrat engagement jeune verra le jour en mars prochain. Il proposera aux jeunes de moins de 25 ans, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois. Nous y reviendrons avec le président de la FAGE, le syndicat étudiant, Paul Maillot. La COP26 en Écosse, les dirigeants mondiaux s'engagent à enrayer la déforestation d'ici à 2030 pour protéger le climat. Le chanteur syrien Saba Fakhri est mort. Il était une icône de la chanson à l'épine et célèbre dans l'ensemble du monde arabe. Saba Fakhri était âgé de 88 ans. Il a interprété de sa voix puissante les chants traditionnels. Retour sur son parcours et sur ce qu'il représentait en Syrie et au-delà des frontières syriennes avec Elie Masbounji, président fondateur de Trilogue News, président de l'Association de la presse étrangère.
Saba Fakhri est un symbole de l'authenticité, de la sincérité à travers l'art et la musique. Et l'importance de Saba Fakhri, aujourd'hui disparu, est qu'il a, pendant un demi-siècle, incarné l'authenticité de la culture et de la musique arabe par rapport aux autres, aux déviations ou aux déformations de l'art et de la musique. C'est le tarab. Le mot tarab est intraduisible. C'est une espèce de rêve qui est provoqué par la musique et qui transporte l'auditeur dans un monde qui le fait oublier le problème quotidien. Et Alep, à laquelle il est né, où il est resté jusqu'à la fin de ses jours, se distingue des autres villes syriennes par une culture musicale et poétique supérieure au Syrien moyen, disons. L'importance de Saba Fakhri, c'est sa constance, sa fidélité à l'art. Il a toujours été là, avec une force extraordinaire, physique extraordinaire. Il tenait le micro pendant 4 heures, 5 heures, devant une foule de gens, sans donner le moindre signe de faiblesse, sans boire un verre d'eau.
Il avait même battu un record en 1968 en chantant pendant plus de 10 heures d'affilée. C'était lors d'une tournée à Caracas.
Dix heures sur scène et avec un public aussi enthousiaste de la première minute jusqu'à la dernière. C'est vraiment un phénomène. C'est une perte vraiment pour la musique et l'art et le talent syrien et arabe. Il se considérait bien sûr syrien et arabe en même temps, comme beaucoup de Syriens d'ailleurs, et il ne connaissait pas les tendances chauvinistes des uns et des autres. Pour lui, arabité et syrianité, si l'on peut dire, se confondent. C'est ça qui lui donnait, je crois, cette force et cette présence très très forte sur scène, et bien sûr, plus tard, jusqu'à nos jours, par les moyens de transmission. Ce qui est aujourd'hui remarquable, c'est que les jeunes qui ont 7 ans et 8 ans à Alep et dans beaucoup de pays arabes se plaisent à entendre la musique et les paroles de Saba Fakhri, qui à travers la sensibilité artistique arrive à faire bouger quelque chose dans nos tripes et dans notre cœur. Et je ne connais pas personnellement beaucoup d'artistes arabes qui sont arrivés à ce stade de, entre guillemets, pénétration dans l'intimité de chacun.
Vous avez grandi avec ces chansons. Que représentaient-ils pour vous?
À première vue, quand vous regardez, c'est un peu la sensualité de la musique et de l'art. Al-Qudud, Al-Halabiya, il parlait d'Al-Qudud. Al-Qudud, c'est un mot intraduisible, malheureusement. Al-Qad, ça veut dire l'allure, la beauté féminine. Donc il a mis en relief la féminité et la sensibilité et la sensualité de la lépine, mais pas en tant que femme dans le sens dans la définition la connotation sexuelle, mais cette richesse qu'apporte la femme à l'épine, à la culture et l'art et à la musique arabe. Le Qudud de l'Halabiya, c'est un mot intraduisible, une expression intraduisible, mais elle fait vibrer notre cœur et notre esprit.
Ilyi Mazbounji, président fondateur de Trilogue News, président de l'Association de la presse étrangère. Un attentat suicide a fait au moins 19 morts et 50 blessés ce mardi en Afghanistan. C'est arrivé près d'un hôpital militaire dans le centre de Kaboul. Le ministère afghan de la Santé indique que l'attaque a été menée par un kamikaze à moto qui s'est fait exploser à l'entrée de l'hôpital et par des assaillants qui ont réussi à entrer dans l'hôpital avant d'être tous abattus par des combattants talibans. Cela fait 104 ans, le 2 novembre 1917, la déclaration Balfour, Arthur Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, apportait le soutien du gouvernement à l'établissement d'un foyer juif en Palestine, un document historique qui a changé l'histoire du Moyen-Orient. Cela a été l'une des premières étapes de la création de l'État d'Israël en 1948 et du conflit israélo-palestinien. Le Liban appelle l'Arabie Saoudite au dialogue pour régler la crise diplomatique entre les deux pays, une crise née des propos du ministre libanais de l'Information qui avait critiqué l'intervention militaire de Riyad au Yémen. Riyad mène depuis 2015 une coalition militaire qui soutient le gouvernement yéménite face aux rebelles. L'Arabie Saoudite a arrêté vendredi les importations en provenance du Liban. C'est une première depuis le début de la crise sanitaire. Un ferry de voyageurs venant d'Algérie arrive aujourd'hui à Marseille. L'Algérie avait fermé ses frontières maritimes le 19 mars 2020. Les frontières aériennes fermées depuis le 17 mars n'ont rouvert que partiellement le 1er juin vers 7 pays. Le premier ministre déchu du Soudan, Abdallah Hamdok, estime que la voie vers une sortie de crise passe par le retour de son cabinet déposé. C'est ce qui ressort d'une rencontre avec les ambassadeurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de Norvège au Soudan. Abdallah Hamdok est toujours placé en résidence surveillée à son domicile. Un contrat engagement jeune verra le jour le 1er mars prochain en France. Il proposera aux jeunes de moins de 25 ans, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois, cela en échange de 15 à 20 heures par semaine de formation ou d'accompagnement. Nous y revenons avec le président du syndicat étudiant La Fage, Paul Maillot.
C'est avec beaucoup de déception qu'on peut recevoir cette annonce, effectivement, par rapport aux ambitions premières qui avaient été énoncées autour de ce revenu d'engagement devenu contrat d'engagement. Il y a des choses tout de même qui sont mises en place, bien entendu, qu'il faut souligner. C'est plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui seront accompagnés, des jeunes sans emploi, des jeunes sans formation. En revanche, on déplore tout de même le manque d'ambition de ce dispositif qui se voulait vraiment très englobant, qui voulait vraiment prendre en considération tous les jeunes, quels que soient les profils, et c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui.
L'encouragement justement à la formation, est-ce un élément que vous saluez?
Oui, effectivement, le retour vers une formation pour les personnes qui ont pu être décrocheuses, pour des personnes qui souhaitent se reformer après avoir pu avoir un parcours professionnel court ou plus long, peu importe. Oui, ça effectivement, c'est des choses qu'on peut saluer.
Étiez-vous favorable au revenu universel?
On s'est toujours positionné avec La Fage sur un revenu qu'on peut retrouver sur des montants proches de celui du RSA à destination des jeunes de moins de 25 ans, mais en revanche avec toujours un accompagnement humain et adapté à chaque profil, aussi différent qu'il soit.
Parce que vous estimez là qu'une partie importante de la jeunesse est exclue de ce dispositif annoncé par le président français?
Oui, effectivement, on peut retrouver les jeunes personnes actives qui sont dans des situations précaires. On a pu avoir le taux de chômage qui a baissé et du coup, comme justification pour l'abaissement de cette ambition pour ce contrat d'engagement. Mais quand on regarde dans le détail, au final, les personnes qui sont salariées à temps partiel, c'est plus de 26% des jeunes de moins de 25 ans qui composent ces derniers. Donc quand on regarde vraiment dans le détail, c'est un peu compliqué donc effectivement de pouvoir inclure les jeunes actifs, les jeunes diplômés également, qui ne sont aujourd'hui pas considérés par ce dispositif, qui pourtant, bah, quand on obtient une licence à 21 ans ou un master à 23 ans, bah, on n'est pas accompagné aujourd'hui financièrement ou humainement, donc ça peut être compliqué d'aller vers un emploi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce genre de profil qui aujourd'hui manque cruellement dans ce contrat d'engagement.
Vous estimez que les jeunes diplômés aujourd'hui sont en quelque sorte exclus du système d'aide en France?
Oui, totalement. Les jeunes diplômés, alors à moins qu'ils réussissent à trouver un emploi, à pourvoir un emploi juste après le diplôme, il y a très peu d'accompagnement pour ces derniers. On avait auparavant l'allocation de recherche au premier emploi qui n'existe plus, ou en tout cas qui a été remis sur le couvert avec la crise sanitaire, mais en moindre mesure. Et on n'a pas foncièrement d'accompagnement humain institutionnalisé, si ce n'est des associations du coup très compétentes qui font un très grand boulot, comme l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, mais qui aujourd'hui ne gère pas l'ensemble des personnes qui en auraient besoin.
Vous présidez un important syndicat étudiant, l'AFAGE, aujourd'hui. Quelles sont vos principales requêtes concernant justement les jeunes étudiants diplômés?
La revendication de l'AFAGE autour de la question des bourses, notamment sur critères sociaux, à notre sens, doit être réformée pour mieux prendre en compte le parcours de l'étudiant. Mais au-delà de ça, que l'étudiant, une fois qu'il arrive au terme de sa formation, qu'il puisse être pris en charge, qu'il puisse être accompagné avec un accompagnement qui soit à la fois financier, mais également humain, du coup, dans ce contrat d'engagement jeune, qu'il puisse directement rentrer, donc avec une articulation qui se ferait public étudiant et futur actif, de sorte à ce que puisse trouver, une fois qu'on est diplômé, un emploi qui soit à la hauteur de nos aspirations.
Le président de l'AFAGE, le premier syndicat étudiant en France, Paul Maillot. Cet appel du député et médecin psychiatre Brahim Amouche. Il souhaite que le regard porté sur les personnes atteintes de maladies mentales change. Le parlementaire souligne que beaucoup de préjugés négatifs persistent, renforçant la perte d'estime de soi, et que 75% des maladies psychiatriques débutent avant l'âge de 25 ans. Entretien avec le député Modem de Moselle et médecin psychiatre Brahim Amouche.
Il reste encore un des sujets tabous, très peu évoqués par les familles, beaucoup stigmatisés par les médias, avec parfois du vocabulaire très péjoratif vis-à-vis des patients atteints de tel ou tel trouble. Lorsqu'on est dans des ambivalences, on parle d'attitude schizophrénique. Lorsqu'on est dans un refus d'écoute, on parle d'autisme. Vous voyez, donc ce sont des termes qui sont complètement décalés par rapport à la réalité clinique, et qui sont très péjoratifs et très stigmatisants pour les patients qui sont eux-mêmes autistes ou schizophrènes. Donc il y a un vrai sujet, un vrai tabou et une vraie stigmatisation vis-à-vis des maladies mentales et de la souffrance psychique dans notre pays, malgré les avancées de la neuroscience et malgré, je dirais, les avancées des droits des patients.
Vous évoquez ces préjugés négatifs et vous rappelez que les personnes qui, par exemple, souffrent de schizophrénie sont avant tout des victimes ou des dangers pour elles-mêmes et non pour les autres.
Oui, absolument, absolument. Contrairement à ce qui peut être relayé ici ou là, encore une fois, dans la caisse de résonance médiatique, voire dans certaines lois politiques circonstancielles, le malade mental, et en particulier le schizophrène, est d'abord dangereux pour lui-même. Il n'est absolument pas dangereux pour les autres. Lorsqu'il y a une décompensation délirante, avec des hallucinations, qu'elles soient visuelles ou auditives, c'est d'abord le patient lui-même qui se met en danger. Nous avons en France un des tristes records des tentatives des suicides en Europe. Nous sommes un des pays où on a le plus grand nombre de tentatives de suicide, faut-il le rappeler. Nous avons également des retards diagnostiques. Aujourd'hui, pour permettre d'avoir un diagnostic positif, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire confirmé, d'un trouble bipolaire de l'humeur, il faut parfois attendre 10 ans. Et les psychoses sont parfois elles-mêmes, pendant 2 ans, plus de 2 ans même, non traitées. Donc là, il y a du vrai retard de prise en charge et de diagnostic qui explique aussi l'errance des patients et la désorganisation sociale, voire la précarisation, l'appauvrissement et des patients qui se retrouvent SDF, faute de soins.
Et est-ce lié également à ces préjugés négatifs, les malades qui hésitent à aller consulter?
Il y a surtout, je pense, aujourd'hui en France, et l'actualité récente le démontre, une désorganisation en termes de notre système de santé. C'est-à-dire que notre système de santé, nous avons parlé de la réduction des lits dans les hôpitaux généraux. Malheureusement, la psychiatrie a été abonnée à cette réduction des lits. Nous sommes passés de 120 000 lits il y a 40 ans à 40 000 lits aujourd'hui, donc une baisse de 30% des lits d'hospitalisation. Nous avons un système de santé organisé sur l'ambulatoire qu'on appelle le secteur, qui aujourd'hui est également en très grande difficulté. Donc nous avons, au niveau de notre prise en charge, nous avons une offre qui n'est pas adaptée aux besoins de la population et à la responsabilité territoriale de la santé et de la santé mentale.
Vous rappelez que la grande majorité des maladies psychiatriques débutent avant l'âge de 25 ans. Faut-il davantage sensibiliser les parents, mais également les adolescents, à la consommation de substances psychoactives comme le cannabis, par exemple?
Alors, il y a effectivement 75% des maladies mentales commencent avant l'âge de 25 ans. Donc, ça, il faut effectivement le dire et le rappeler. Ce qui signifie qu'il faut une vraie éducation dans les annonces faites par le président. Il y a ce qu'on appelle les premiers répondants, c'est-à-dire que vous, comme bon, moi je suis psychiatre, donc je dirais que comme toute la population tout venante doit être capable de faire des gestes de réanimation cardiovasculaire, eh bien il va s'agir aussi de former l'entourage immédiat, amis, famille, à être à l'écoute des premiers symptômes de dépression, des premiers symptômes de désorganisation, donc des premiers symptômes d'entrée dans une maladie psychiatrique, voire de simples difficultés psychiques, et de pouvoir appeler ce qu'on appelle les premiers répondants et de pouvoir contacter des équipes spécialisées. Donc nous aimerions monter en charge et passer de 20 000 à 60 000 en quelques années. Donc il y a une vraie sensibilisation, éducation aux premiers symptômes, aux premiers signes d'alerte. Il n'y a pas que les psychotropes ou les consommations de substances psychoactives. Là, c'est un vaste débat. Hein. Est-ce que les substances sont cause ou conséquence d'une maladie mentale ou psychiatrique? En tous les cas, il est clair que la consommation de substances psychoactives parfois entraîne l'explosion de symptômes. Je crois que au-delà des consommations de drogue, eh bien, il faut surtout sensibiliser à la souffrance. Je crois que le mot le plus important, c'est la souffrance.
Le député MoDem de Moselle et médecin psychiatre Brahim Amouche. La COP26 en Écosse, les dirigeants mondiaux s'engagent à enrayer la déforestation d'ici à 2030 pour protéger le climat. Au total, 12 pays vont investir 16,5 milliards d'euros pour restaurer les terres dégradées, lutter contre les incendies et soutenir les communautés autochtones. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h est Christophe Rossignol, secrétaire général du mouvement Liberté, écologie, fraternité, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.